Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, bienvenue sur BFM Business le week-end, sur la chaîne YouTube de Tech & Co, sur la chaîne Tech & Co. Je suis ravi de vous retrouver à la fois en audio, en vidéo, De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech, comme chaque semaine. Avec au sommaire de ce De quoi je me mêle, on va parler beaucoup maisons connectées cette semaine, avec tout à l'heure Lionel Paris qui sera avec nous. On évoquera avec lui la sécurité du Wi-Fi. Ça sert à quoi de bien sécuriser ses mots de passe Wi-Fi? Comment peut-on faire? Quelles sont les petites astuces qu'on peut vous donner? On évoquera aussi le fameux réseau Wi-Fi invité qu'on a sur la plupart des box. À quoi sert-il? On rentrera dans les détails, on va essayer de vous donner un maximum de conseils sur ce réseau qu'on a tous à la maison, mais qu'on ne prend peut-être pas trop au sérieux, et c'est une erreur. Je vous rappelle aussi que vous pouvez réagir avec nous avec le hashtag DQJMM. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et pour débuter ce De quoi je me mêle, nous allons nous intéresser à une actualité particulière qui a été annoncée il y a quelques jours à peine. C'est ce fameux protocole Matter qui a été officialisé. Un protocole dont les promesses sont très importantes puisqu'il est censé nous faciliter la connectivité de nos objets de la maison au quotidien. Et on va en parler avec un spécialiste de ce sujet, c'est Benoît Bourdon, qui est sur le plateau de quoi je me mêle.
Bonjour François.
Bonjour Benoît, merci d'être avec nous.
Ravi.
Vous êtes responsable du programmateur chez Netatmo.
Et exactement.
Oui, Netatmo, cette pépite française de l'objet connecté, de la maison connectée. Hein. Netatmo, c'est la station météo connectée qui était le premier succès, le premier objet il y a quelques années de cela. Il y a eu des caméras, il y a eu des serrures, enfin des thermostats aussi.
Des thermostats, connectés. Des vannes de radiateurs. Et donc, on a développé une gamme de produits de la maison connectée qui va de la weather station, de la station météo, tous les produits de chauffe pour gérer ces économies d'énergie, la sécurité et maintenant toute la gamme de produits électricité et interrupteurs, prise de courant avec notre
partenaire principal
qui est le groupe Legrand.
Voilà. Et alors ce qui est intéressant, c'est que Netatmo fait partie de cette organisation, de cette association qui a créé Matter, hein, qui est un projet d'envergure mondiale.
Hein. Exactement.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est?
Alors, je vais vous expliquer, pour comprendre ce qu'est Matter précisément, on va partir du problème qu'on cherche à résoudre. Donc le problème qu'on cherche à résoudre avec Matter, la smart home c'est un monde compliqué avec énormément d'acteurs variés et des technologies hétérogènes. À côté de ça, on a dans ce monde-là les assistants vocaux qui sont assez forts et très pratiques à la maison pour les actions simples telles que allumer une lumière ou monter la température.
Alexa, Google Home, Siri
et Apple Home. L'ensemble de ces deux sujets font que pour un consommateur final, c'est très complexe de savoir au moment où il achète un produit s'il va être compatible avec un de ses assistants vocaux ou s'il va être compatible avec des objets connectés qu'il posséderait déjà. Donc ça, c'est un vrai frein à la smart home, c'est un vrai frein au déploiement de ce marché. Aujourd'hui, ce marché reste un marché d'experts, de gens qui savent ce qu'ils achètent. On n'est pas encore sur un marché grand public. La promesse de Matter, c'est effectivement de permettre aux gens de ne plus se poser cette question. Quand ils vont acheter un produit certifié Matter, ils vont savoir que ce produit va fonctionner avec leurs assistants vocaux qui sont certifiés Matter, avec tout autre écosystème certifié Matter ou avec d'autres produits certifiés Matter sans se poser de questions.
C'est
la promesse.
C'est une petite révolution. J'imagine que ça a été d'âpres discussions entre tous ces acteurs qui se sont mis d'accord, mais qui sont d'ignobles concurrents. C'est vrai que c'est la guerre entre Amazon, entre Google, entre Apple. C'est quand même fort qu'ils se soient retrouvés autour d'une table pour discuter d'un standard commun, non ?
Bien sûr, alors on est évidemment tous plus ou moins concurrents, mais aussi partenaires. En fait, nos produits fonctionnent ensemble et les usages pour les utilisateurs finaux, c'est que ces produits-là puissent interagir ensemble, qu'on puisse faire des scénarios. Par exemple, j'ai une détection de mouvement à la maison, j'allume une lumière, je sens qu'une fenêtre s'ouvre, je coupe le chauffage. Tout ça fait que la smart home devient vraiment quelque chose d'intelligent et d'utile pour nos utilisateurs. Et ça, tous les concurrents se rendent bien compte.
Tout le monde sait
qu'il faut qu'on aille dans cette direction-là.
On sait.
Et donc, on sait s'associer et on sait travailler sur, sur ce standard qui est ouvert et qui est évolutif pour rendre la Smart Home plus utile encore pour nos utilisateurs.
Est-ce que c'est aussi, en partant d'un constat, que ça décollait pas vraiment, la maison connectée, avec justement toutes ces complexités, toutes ces incompatibilités, ces interrogations de la part des clients?
Alors, c'est
ça a été aussi, parce qu'enfin, vous êtes un fabricant d'objets connectés, mais les Alexa, les Amazon, les Apple, qui sont, on va dire, des locomotives de tout ça, se retrouvent un peu dans une impasse, non?
Alors, pas vraiment dans une impasse, ça décolle. C'est-à-dire que ce marché-là fonctionne et il y a toujours de la croissance. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on pourrait arriver à un plafond.
Oui, vous pourriez aller encore plus vite et plus loin.
On pourrait aller plus vite, mais on peut arriver à un plafond parce que quand je possède un objet ou un assistant vocal, passer au deuxième objet connecté, c'est complexe. Si je ne suis pas un expert, c'est complexe et je ne suis pas certain de pouvoir faire fonctionner mon écosystème à la maison. Et c'est ce passage au deuxième objet et à plus pour pouvoir mettre en place des scénarios à la maison qui est complexe et qui pourrait devenir le plafond de verre d'après.
Alors, comment ça s'est passé, en fait, tout ça? Vous avez... Netatmo fait partie, donc, de cette organisation, hein, c'est ça? Ça fait longtemps que vous travaillez sur ce protocole Matter?
Alors, Netatmo et Legrand, on travaille depuis 2009 avec tous ces acteurs-là. Depuis 2019, pardon.
Ah oui.
Depuis 2019.
D'accord.
À la création de ce nouveau standard.
Donc, il a fallu quand même 3 ans.
Il a fallu trois ans.
Une pandémie au milieu qui a peut-être...
C'était un projet qui était censé durer 2 ans. Il y a un an de retard, il y a une pandémie. C'est
logique.
Un projet extrêmement complexe.
Bien sûr.
Et donc, le projet, c'est effectivement de concevoir un protocole, c'est-à-dire un langage, et choisir aussi les bonnes couches de transport qui sont disponibles à la maison, donc le Wi-Fi ou d'autres types de protocoles, pour pouvoir mettre en place ce standard. Donc ça, c'est énormément de travail. Ça veut dire aussi choisir les types de produits qui vont être disponibles dans la première version de ce standard et quelles seront ensuite les suivantes. Donc c'est 220 acteurs qui se sont réunis pour définir l'ensemble de ce standard en 3 ans.
220 acteurs, c'est 200, en fait... C'est...
220 marques sont réunies aujourd'hui dans la...
C'est l'immense majorité en fait des acteurs de l'électronique grand public qui sont dans ce domaine-là.
C'est les principaux acteurs de la Smart Home qui sont effectivement présents avec nous.
Il y en a qui ont refusé d'aller dans le protocole Matter, des grands, des
Alors,
costauds.
Alors, je ne sais pas dire s'il y a des grands qui ont refusé. En tout cas, tout le monde n'est pas présent. Mais oui, la plupart de nos partenaires ou concurrents sont présents.
Voilà. Alors, ça va donc de Netatmo à Apple, à Samsung aussi.
On retrouve Samsung, évidemment Google, on retrouve des gens comme Somfy, dont notre groupe Legrand est évidemment présent. Nos concurrents sont aussi présents, des gens comme Schneider, par exemple. Mm-hmm. Et en fait, ensemble, on arrive à concevoir le standard des objets qu'on a en commun, voilà, qui sont concurrents. On sait qu'en concevant ce standard, on va élargir notre marché et on préfère... C'est fait partie de la philosophie Netatmo en fait depuis le départ. Depuis toujours chez Netatmo, on a fait en sorte que nos produits soient compatibles toujours avec les écosystèmes ou les assistants vocaux. On préfère que nos produits aillent se frotter au marché et à leurs concurrents parce qu'on est serein sur leur qualité et leur valeur ajoutée.
Bien sûr.
Et on sait que ça va rendre service à nos utilisateurs.
C'est
et
clair.
Cette philosophie-là, on la retrouve dans Matter.
Vous pensez que l'assistant vocal, c'est vraiment le l'Eldorado de l'objet connecté, certains disent que c'est un gadget, etc., etc. Vous pensez vraiment qu'il y a un avant et après assistant vocal à la maison?
C'est pas forcément un Eldorado, c'est un peu fort. Par contre, oui, c'est un objet assez utile dans la maison connectée parce que c'est lui qui permet assez simplement de réaliser les actions les plus simples. Mmh. Allumer la lumière, baisser la température, recevoir une alerte parce qu'il y a une fenêtre qui s'est ouverte. C'est effectivement un objet qui est très adapté aux actions simples et aux ordres qu'on peut donner dans la Smart Home. Donc, du coup, ça en devient un objet effectivement important pour le déploiement de la Smart Home sur le marché.
Alors, la V1 de ce protocole Matter a été annoncée, d'accord? Donc, c'est officiel depuis le 3 novembre dernier. Voilà, il y a eu une conférence de presse à Amsterdam, je crois.
Il y a un événement qui a eu lieu le 3 novembre dernier à Amsterdam, effectivement, pour annoncer le lancement de Matter et pour que les fabricants qui sont impliqués, qui ont déjà des produits disponibles sur le standard, puissent les présenter, faire des démos et montrer, preuve par l'exemple, que les interactions entre les objets sont facilitées.
Alors, justement, comment est-ce facilité? C'est-à-dire que qu'est-ce que ça va changer pour l'utilisateur qui achète des objets connectés de différentes marques, qui va vouloir connecter à ces univers, en fait? Qu'est-ce que ça change?
Alors, je pense qu'on peut expliquer en deux mots aussi ce qu'est ce protocole et pourquoi, du coup,
bien
ça
sûr,
va devenir facile.
Bien sûr.
En fait, un standard comme Matter, c'est deux sujets. C'est d'abord un langage. On va vraiment faire une analogie entre le langage et des canaux de communication. Donc c'est un langage qu'il a fallu écrire et c'est des canaux de communication qu'il a fallu choisir. Donc un langage, c'est tous les deux, on parle en français, on se comprend, on suit les mêmes règles, on a une grammaire. Et on fait transiter ce langage ici à l'oral ou bien à travers des caméras ou par SMS. Matter, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un langage qui est rédigé, c'est-à-dire que c'est, techniquement, on va parler d'attributs ou de commandes, et pour faire en sorte que l'interrupteur du fabricant A, quand il envoie la commande à une lampe, il envoie la bonne commande, et que tout le monde se comprenne.
Pour poursuivre votre analogie, c'est un peu comme si tout le monde parlait la même langue.
Exactement.
Alors qu'avant, on se retrouvait avec du chinois, de l'anglais et de
c'est
l'italien.
Exactement ça.
Là, voilà, il y a une langue.
Il y a une langue définie.
Universelle.
Universelle pour que les produits puissent interagir entre eux. Donc, c'est un standard. Donc, ce standard va englober les actions communes à tous les objets ou les actions les plus classiques, telles que allumer la lumière, changer la température, un capteur de sécurité qui va alerter ses produits voisins qu'il y a une intrusion ou il y a un mouvement. Tout ça à travers le même langage rédigé au sein de cette. De ce standard. Et le deuxième élément du standard, c'est le choix des canaux de communication. Donc, je faisais l'analogie tout à l'heure, le SMS, la voix, à travers une caméra ou à travers un email. Au sein du standard Matter, il y a deux canaux de communication qui ont été privilégiés et choisis.
Ouais.
Le premier, c'est le Wi-Fi et l'Ethernet. Donc, c'est le réseau IP qu'on retrouve tous à la maison à partir du moment où on a une box Internet.
Oui. Et c'est, on va dire, une compatibilité hardware quasi à 100%, parce que la plupart des objets sont Wi-Fi.
Alors, la plupart des objets ont au moins un point d'accès
un
vers
point
le
d'accès,
Wi-Fi.
Voilà, c'est
exactement.
Ça.
Et la deuxième, le deuxième protocole réseau qui a été sélectionné, c'est le protocole Thread, qui est un protocole relativement récent, qui a quelques années, qui a été initié par Google et repris par beaucoup d'acteurs dans la foulée. Et c'est un protocole qui est assez complémentaire au Wi-Fi, parce qu'il est peu consommateur en énergie, donc il est adapté aux objets sur batterie. Ce qui n'est pas le cas de Wi-Fi. Le Wi-Fi est assez consommateur en énergie.
D'accord.
On se retrouve avec deux protocoles de communication sur lesquels ce langage va pouvoir transiter pour que les objets se comprennent.
Donc le Wi-Fi, ça va être pour les caméras qui ont besoin de débit pour envoyer de l'image, parfois en 4K, etc. Le Thread, ça sera pour les petites, on va dire, les petites commandes.
Exactement, c'est
on-off, etc. Exactement. Pour les interrupteurs, les choses comme ça, les petits capteurs.
C'est exactement ça. Effectivement, ça fait partie des deux distinctions qu'on peut faire sur ces deux canaux de communication pour Matter. Et il y a un dernier point qui est vraiment important pour comprendre à quel point ce standard va probablement être adopté massivement. C'est que beaucoup de fabricants ont des objets, par exemple comme nous, où on a un point vers le Wi-Fi, mais derrière, on utilise notre propre protocole, un protocole propriétaire ou des protocoles connus tels que le Zigbee, qui ne sont pas inclus dans Matter.
D'accord.
Simplement, Matter a prévu ce genre de situation pour pouvoir...
Malgré tout, dialoguer avec ces protocoles.
Il est prévu dans Matter de pouvoir rendre ce qu'on appelle les ponts entre le Wi-Fi et le reste des technologies compatibles Matter, et ainsi les ponts vont pouvoir, ce qu'ils appellent des bridges dans Matter, vont pouvoir donner l'impression au réseau Matter que les produits qui sont dans une autre technologie sont aussi Matter. Ça
D'accord.
passera toujours à travers ce pont, et du coup ça va permettre aux fabricants qui vont le souhaiter avec du développement logiciel et sans forcément rajouter des nouvelles technologies hardware dans leurs objets, de pouvoir basculer dans ce monde de Matter.
Ouais, mais
ce qui
malgré
promet
tout,
une adoption assez forte.
Malgré tout, le Wi-Fi et le Thread sont, on va dire, privilégiés. C'est-à-dire
tout
que
à
ce
fait.
Sont les standards natifs,
c'est les standards
en quelque
natifs,
sorte.
Et cette technologie et ce standard de bridge va permettre de venir inclure aussi les fabricants qui ne peuvent pas ou ne vont pas investir massivement sur ces nouvelles technologies.
Ce qu'on reproche aussi peut-être à la maison connectée d'une manière générale, c'est la configuration de tous ces objets. Alors, on a une station Netatmo, c'est vite fait, on installe l'appli, en 2-3 mouvements, c'est réglé. Mais après, pour la brancher à un protocole Alexa ou Google Home, c'est un petit peu plus complexe, il faut changer d'appli, etc. Ou même Apple, enfin, voilà. Et c'est là où on peut passer un week-end, en fait, à configurer sa maison connectée, c'est vraiment terrible. Est-ce que Matter va faciliter tout ça aussi?
Alors, aussi, oui. C'est un des freins, comme vous le disiez là. On peut passer un week-end, si j'ai énormément d'objets à connecter, ça peut être long. Effectivement, Matter vient aussi avec ce qu'on appelle des SDK, des kits de développement, qui vont être intégrés dans différentes applications. Ça peut être dans les applications des fabricants, mais ça peut être aussi dans les applications des écosystèmes tels que les box des opérateurs ou les assistants vocaux. Et avec ces kits de développement, arrive aussi une installation simplifiée et un partage simplifié au sein du même réseau Matter au sein de ma maison. Voilà, donc ça sera plus facile d'installer effectivement un produit à travers différentes apps dans mon réseau Matter.
D'accord. C'est-à-dire que finalement, quel sera le point d'entrée ? Ce sera par exemple toujours l'application Netatmo qui deviendra Matter et qui me permettra de me connecter à plein d'autres objets parfois concurrents de Netatmo. Comment ça va se passer en fait ? Quel va être le carrefour logiciel ?
Le carrefour logiciel ou même le parcours utilisateur, ouais. Effectivement. Alors les deux seront possibles. Nos applications mobiles vont continuer d'avoir une importance parce que Matter, c'est un standard. Un standard sert à standardiser ce qui est commun entre les différents fabricants. Nous, notre valeur ajoutée, ce n'est pas seulement de connecter la lumière, le chauffage ou des images de vidéosurveillance, c'est aussi de rajouter des configurations avancées, des algorithmes avancés qui permettent d'économiser de l'énergie, qui permettent de détecter de manière plus pertinente les mouvements qui se passent à la maison ou qui vont permettre de calculer ma consommation électrique. Ces éléments-là, qui sont notre valeur ajoutée, c'est les éléments sur lesquels on va continuer de travailler, vont rester sont toujours configurables dans nos applications.
Dans vos applications. Mais ce qui veut dire, si je comprends bien, pour la configuration de base, je n'ai même plus besoin de l'application Netatmo, en fait. Je peux passer par l'application Google ou Amazon, etc. C'est ce qui est déjà un petit peu le cas.
Ce qui peut déjà être le cas, ça va être effectivement le cas pour le premier produit qu'on va lancer. Il sera entièrement intégrable dès la première installation dans les écosystèmes de nos partenaires.
D'accord.
Pour les futurs produits qu'on va lancer, on verra au fur et à mesure de l'avancée du protocole et des besoins aussi d'installation du produit. Peut-être qu'il sera nécessaire de passer par notre application pour bénéficier de la valeur ajoutée de nos produits. Peut-être que ça ne sera pas forcément nécessaire si on pense que les clients préfèrent juste l'usage simple.
D'accord.
Donc ça sera probablement au choix du client ou au choix de nos développements au moment où on réalise le produit.
Tout à fait. Mais est-ce qu'il y aura une application, on va dire, universelle qui pourrait s'appeler Matter et qui permettrait d'être le point de départ en fait, de la configuration de tous ces objets ? Ou j'achète un Google Home, je passerai par l'appli Google. Un Alexa, je passe par l'appli Amazon. Comment ça va se passer ?
Alors effectivement, donc, non, il n'y aura pas une application universelle.
C'est peut-être un peu dommage. Je pense que ça aurait été pas mal d'avoir une application un peu simple qui soit une porte d'entrée pour tous les objets, en fait, et agnostique, en fait, pas liée à une marque.
Oui. Alors,
On ne va pas refaire le protocole
aujourd'hui, je crois, mais effectivement, il y a un point qui est très important sur Matter, c'est que c'est un protocole qui régit ce qui se passe en local dans la maison et qui sécurise l'ensemble des communications qu'il y a entre les objets. Nous, on a mis dans nos produits énormément d'efforts sur la sécurisation
Bien
des
sûr.
Communications.
C'est un sujet important.
C'est vraiment un sujet important en termes d'image et évidemment aussi en termes de qualité de nos produits. Ça n'a pas forcément été le cas de certains produits peu chers. Donc Matter régit ça et c'est extrêmement sécurisé. Pour que ce soit sécurisé, il faut que ça parte d'une seule et unique app et il y a des échanges de certificats numériques qui fait que les produits sont sécurisés au sein d'un réseau dans ma maison. C'est pour ça que quand je vais commencer à installer des produits dans ma maison avec mon écosystème, que ce soit Netatmo, un assistant vocal ou un écosystème venant d'une box d'un opérateur, je vais continuer d'installer avec cette même application.
D'accord.
Pour pouvoir garder mes produits au sein d'un réseau sécurisé. Ceci dit, au sein du standard Matter, il est prévu et c'est implémenté qu'il soit facile de déplacer un produit pour le placer dans un réseau sécurisé et le mettre dans un autre. Donc, un produit que j'aurais installé avec mon Google Home, je pourrais très facilement le déplacer et le mettre dans un actionneur Alexa ou dans une application Netatmo, si on décide de faire comme ça. Ça permet aussi, ça a été réfléchi pour qu'il n'y ait pas de précaré qui soit créé et que l'utilisateur puisse changer facilement d'écosystème.
Petite question sur vous disiez les partenaires, donc il y a 220 partenaires.
Oui.
On a souvent critiqué certains constructeurs chinois d'objets connectés bas de gamme qui faisaient l'impasse sur la sécurité, etc. Il y a beaucoup de constructeurs chinois qui font partie de ce protocole Matter ?
Alors il y en a, oui.
D'accord.
Oui, il y en a. Okay. Il y a effectivement des constructeurs chinois qui sont impliqués.
Donc voilà,
c'est effectivement aussi une bonne occasion pour eux de renforcer
la sécurité, bien
exactement.
Évidemment, parce que c'est aussi
c'est natif dans le standard.
Protocole est garant d'un minimum de sécurité.
Je dirais même d'un maximum, vraiment.
Non, mais c'est cool.
Pour le coup, c'est vraiment en termes de sécurité locale, c'est extrêmement élevé.
Et puis ça va élever un peu le niveau aussi, sans doute, de qualité de certains objets, etc. Ça, c'est intéressant. Oui, allez-y.
Par rapport aux promesses de Matter et à la genèse de Matter, ce sujet de la sécurité est aussi un des freins dont je n'ai pas parlé au début, mais c'est aussi un des freins de ce marché. Aujourd'hui, si on avait des problématiques de sécurité qui émergeaient sur le marché, la sécurité est un point très important pour nos clients. On est quand même dans la maison, avec des caméras, avec des thermostats, on connaît la température, on sait s'il y a des présences, s'il y a de la présence ou non. Donc la sécurité et l'impossibilité d'intrusion dans le système de la maison est extrêmement important, et c'était un des points aussi très importants de Matter qui a été adressé avec ce standard.
Comment ça va se passer? J'ai déjà des objets connectés, alors qu'il y en a certains qui sont tout récents, d'autres qui sont plus vieux. Est-ce qu'ils vont pouvoir être matérisés en quelque sorte? Est-ce qu'il va y avoir des mises à jour qui vont rendre ces produits compatibles? Ou, on attaque une nouvelle génération de produits, et à partir de maintenant, tous les produits que j'achèterai seront Matter?
Alors, il y a plein de réponses à ça. D'abord, Matter a prévu de pouvoir rendre compatibles les anciens produits avec d'anciennes technologies, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec cette notion de bridge Matter. Ça, c'est un premier point. Après, maintenant, je vais parler au nom de Netatmo. Netatmo, nous, en fait, c'est notre philosophie depuis le début. C'est-à-dire que depuis 10 ans, depuis qu'on fabrique nos objets connectés, on fait en sorte qu'ils soient compatibles avec tous les écosystèmes du marché. Ça veut dire que les écosystèmes les plus forts aujourd'hui du marché sont les assistants vocaux. On est compatible avec l'intégralité des assistants vocaux. On a aussi des systèmes qui, techniquement, s'appellent des API, qui nous permettent de rendre compatibles nos produits avec d'autres écosystèmes qui peuvent être intéressants sur différents marchés. Donc, on est déjà compatible. Donc, pour nos consommateurs, les produits qui sont déjà sur le marché vont rester compatibles tels qu'ils sont compatibles, et ça continuera de fonctionner. Et donc, je pourrais continuer de faire interagir ma station météo avec un Alexa, et cet Alexa fera le lien vers des produits Matter. Donc, nos produits qui ne sont pas Matter vont pouvoir interagir avec des produits Matter. Ça, c'est pas un problème.
Ça va permettre, juste en petit aparté, ce que vous dites est très intéressant, ça va permettre aussi d'avoir des scénarios enrichis, non ? De connectivité entre les différents...
C'est une des forces de Matter.
Et ça va être top.
Et c'est pour nous, une des choses auxquelles on croit le plus, c'est qu'effectivement, c'est l'interaction entre ces objets, c'est des scénarios qui vont enrichir et améliorer la vie à la maison. C'est des scénarios qui vont m'assurer que j'économise mon énergie, que quand j'ouvre une fenêtre, j'arrête de chauffer, que... quand je commence à chauffer, j'éteins la PMC. En cas d'intrusion, les lumières s'allument aux bons endroits.
C'est-à-dire qu'on peut imaginer que la station connectée Netatmo détecte que la température augmente. Donc à ce moment-là, le chauffage peut se couper ou se baisser automatiquement.
Exactement.
Alors c'est déjà le cas. Mais là, on va se retrouver dans une situation où ces fonctionnalités deviendront plus universelles.
Plus universelles et plus faciles à mettre en œuvre pour le grand public. Et pas seulement pour une petite tranche de consommateurs experts. Les exemples assez récents, effectivement, c'est une station météo détecte un taux de CO2 un peu élevé dans une pièce, je déclenche la VMC.
Tout à fait.
Ça, c'est vraiment des scénarios très classiques, mais qui sont aujourd'hui difficiles à mettre en œuvre et qui seront faciles avec Matter.
Petite question concernant l'avenir de ce protocole qui va évoluer. Régulièrement. Pourquoi va-t-il évoluer, en fait? Est-ce qu'on peut imaginer que Matter puisse aller un petit peu plus loin dans les fonctionnalités? C'est quoi le futur de Matter?
Alors, Matter, aujourd'hui, c'est un protocole qui est compatible avec déjà un grand nombre de produits, de types de produits de la Smart Home. Donc, on va aller de l'éclairage, l'électricité, toutes les commandes de chauffage, la ventilation, la climatisation, tout ça, c'est déjà dans le standard. Des produits de contrôle d'accès, des capteurs de sécurité, tels que celui qu'on est en train de lancer, les volets, les stores des télévisions et cette notion de bridge dont je parlais. Donc ça englobe déjà la plupart des cas d'usage de la Smart Home. Maintenant, Matter et le CSA sont organisés, on est organisé pour pouvoir faire évoluer ce standard. Le CSA, c'est des groupes de travail.
Alors, ce n'est pas le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Non, c'est la Connectivity Standard Alliance.
Voilà, c'est votre consortium à vous.
Ce n'est pas le CSA de la télévision, c'est le CSA de la Smart Home.
Ils ont deux, trois trucs à faire. En plus, ils s'occupent des objets connectés. Là, on ne va pas s'en sortir.
Il y a quand même un peu de travail. Ouais. Et donc, en fait, ce CSA est organisé par groupe de travail. Si trois acteurs, trois membres du CSA pensent qu'il faut rajouter un nouveau type de produit ou pensent qu'il faut créer une nouvelle fonctionnalité, ces trois acteurs peuvent se réunir ensemble, créer un groupe de travail dit marketing qui permet de définir les cas d'usage qu'on veut traiter. Et quand ces cas d'usage sont parfaitement définis, on donne ces spécifications finalement à un groupe de travail technique au sein de Matter.
Voilà, qui travaille pour tout le monde en fait.
Qui travaille pour tout le monde.
Ouais, c'est ça.
Et donc là encore, ce sont des salariés des différentes entreprises.
D'accord.
On peut trouver des gens de Legrand avec des gens de Schneider ou avec des gens de Samsung qui vont travailler avec des gens de Google et qui rédigent concrètement la spécification, donc ce que je disais tout à l'heure, les attributs, les commandes, et qui vont développer les kits de développement pour être mis à disposition. Donc ça, c'est une promesse d'évolutivité du standard.
Voilà, c'est une nouvelle étape franchie dans la compatibilité de ces objets connectés. C'est une très très bonne nouvelle. Merci beaucoup Benoît.
C'est une très bonne nouvelle. Nous, on est absolument enthousiastes chez NetAtmo vis-à-vis de ce standard.
C'est clair, et ça fait plaisir de voir qu'un acteur français soit aussi influent dans ce consortium en quelque sorte. C'est une très bonne nouvelle. Benoît Bourdon, donc responsable du programme Matter, donc chez NetAtmo. Vous restez avec nous. La suite de quoi je me mêle, c'est dans un instant. On va parler de Wi-Fi et de sécurité avec Lionel Paris. À tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Le retour de quoi je me mêle, à la fois sur BFM Business, vous le savez, le week-end, mais aussi sur la chaîne Tech & Co, sur YouTube et puis en podcast audio, bien évidemment. Tiens, on va continuer dans ce thème de la maison connectée pour évoquer maintenant la sécurité du Wi-Fi avec Lionel Paris qui est avec nous. Salut Lionel.
Bonjour François.
Monsieur Wi-Fi de quoi je me mêle, vous l'avez compris maintenant. Hein. Autant vous dire que si vous faites un speed test chez Lionel, ça dépote hein, quand même. C'est vrai,
c'est sûr.
On est d'accord. Peut-être que vous êtes un peu comme moi. Moi, dès que j'arrive dans un endroit, je fais un speed test. C'est terrible quand même. Hein.
Bah si, c'est bien. Ça nous permet de savoir si on peut se connecter correctement, envoyer des données, des infos.
Ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. ne me jugez pas, je vous en supplie. Lionel, on va parler de Wi-Fi. Alors, on a déjà évoqué Wi-Fi 6E, etc., les prochaines itérations du Wi-Fi. Mais là, on va s'intéresser à la sécurité du Wi-Fi, parce que c'est peut-être encore plus important, sans doute, parce qu'un réseau Wi-Fi, il faut absolument qu'il soit bien protégé, parce qu'autrement, quelqu'un peut squatter sur votre réseau, et ça, c'est pas bon du tout.
C'est pas bon du tout.
D'autant qu'on est un peu responsable de sa connexion Internet, donc il faut faire gaffe. Et tu nous proposes, en fait, pour ce rendez-vous, eh bien, de faire un point, justement, sur le chiffrement Wi-Fi, le réseau invité aussi, qui est très important. Oui. Il y a des suites logicielles aussi qui sont intégrées dans certains routeurs pour protéger, en fait, le réseau.
Tout à fait.
Donc, on a du pain sur la planche. La sécurité du Wi-Fi, donc primordiale.
C'est indispensable. On oublie souvent que le Wi-Fi à la maison ne s'arrête pas à son domicile. Donc, il sort du domicile. Donc, effectivement, à partir du moment où votre Wi-Fi de votre maison est accessible à l'extérieur, il suffit de se mettre dans une voiture, d'ouvrir un portable, et puis on va scanner, on va trouver 70 points d'accès. Bon. On a vite compris que la sécurité, c'est une des composantes. Et c'est vrai que quand on parle de Wi-Fi, on veut corriger les problèmes de connectivité. C'est ça qui nous intéresse. Donc, on installe un produit, puis c'est bon, ça fonctionne. On laisse la sécurité un petit peu par défaut. Et c'est là où je veux donner quelques bonnes pratiques aujourd'hui,
bien sûr.
À savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger tous ces points-là.
Alors, premier point, le mot de passe Wi-Fi. Vous savez, c'est ce chiffre imbitable qu'on a sur nos box opérateurs, avec des majuscules, des minuscules, des chiffres, parfois même des caractères. Ça, c'est très important.
Oui.
En général, les box opérateurs ont des mots de passe assez costauds, on est d'accord ?
Tout à fait. Alors, on va trouver plein de produits différents et plein de façons d'implémenter. Et c'est vrai que dans les box opérateurs, on a tendance à trouver... Il suffit de retourner sa box. Généralement, on trouve un mot de passe qui est généralement très long, compliqué à taper, compliqué à saisir. Il y a même des box où c'est un mélange d'un mot de passe plus le numéro de série de la box, les deux composants qui font donc le mot de passe à rentrer pour se connecter au Wi-Fi. Je dirais que ça reste compliqué à saisir. Ça reste compliqué à partager à l'intérieur du domicile. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres choses qui sont comme les QR codes. C'est tout à fait possible d'utiliser un QR code pour obtenir un mot de passe Wi-Fi. Ou même
Comment ça marche en fait ? Je viens chez toi, par exemple, j'ai envie de faire un speed test.
Bah oui, bien sûr.
Parce que je sais que chez toi, ça va cartonner. tu ne vas pas me communiquer ton mot de passe Wi-Fi.
Non.
L'idée là, c'est que je prends mon smartphone, je scanne un QR code qui est sur l'un de tes appareils.
C'est ça. Alors, un QR code qui est sur un de mes appareils, qui est donc imprimé physiquement sur un des produits.
Sur un routeur Wi-Fi.
Un QR code que je peux avoir tout à fait imprimé moi-même sur D'accord. du papier sur le nom du Wi-Fi que je veux te donner. Il te suffit de le scanner, ton mobile va reconnaître ce QR code, il y aura le nom du réseau Wi-Fi, le mot de passe, le protocole de sécurité utilisé, tu choisis connecter et boum, tu es connecté.
Donc j'ai même pas recopié les trucs et tout, c'est automatique ?
C'est ça l'avantage du QR code.
Ah ouais, ça,
c'est
top.
Et tout le monde peut se générer son propre QR code. Il y a des applications en ligne qui vous permettent de générer ce genre de QR code et de le mettre sur le frigo, et quand les gens arrivent, ils peuvent le scanner et se connecter directement. Ça, c'est très, très pratique. Ça, on ne fait pas assez souvent.
C'est très pratique. Et est-ce que les gens qui scannent ça voient le code, le code Wi-Fi ou
Alors,
pas ?
Alors, quand tu le scannes, oui. Bien sûr, tu vois le nom du réseau, tu vois la clé de sécurité,
d'accord,
et tu vois la typologie de sécurité qui est implémentée.
Ok.
Et c'est là où
non,
ça m'amène...
Par exemple, tu as des invités, mais tu n'as pas envie de leur montrer ton code Wi-Fi, pour une raison ou pour une autre. Hein. Voilà, ils vont le voir malgré tout avec le QR code.
Ils vont le voir malgré tout, et j'ai envie de te dire, ce n'est pas la bonne démarche. Il ne faut pas communiquer ni son nom de Wi-Fi, ni son mot de passe réseau. Parce que c'est la première faille de sécurité. À partir du moment où vous donnez ça à quelqu'un, il part avec son mobile... Mm-hmm. Bah, il a accès à l'intégralité de votre réseau, il a accès à tous vos PC, il a accès à vos données. Enfin là, vous venez d'ouvrir la porte, mais grand. Donc la recommandation, c'est de ne pas donner ce réseau-là, que je considère moi être le réseau principal
oui,
de la maison.
Oui, c'est le réseau principal, c'est le réseau de la famille, de la maison,
c'est
en quelque
ça.
Sorte, qui est autre chose que le réseau, on va dire, invité, on va en parler dans un instant.
C'est ça.
Mais pour admettons que j'ai envie de changer mon mot de passe,
oui.
parce que j'en ai marre d'avoir les W, Z, A, X, machin, etc. Est-ce que c'est une bonne idée déjà de changer son mot de passe ?
Oui.
Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques ou des petits tips ? Pour justement essayer d'avoir quand même quelque chose d'assez robuste.
Alors, l'ANSSI, hein, qui est l'Institut français de la sécurité, recommande des mots de passe qui vont aller minimum, alors je sais qu'il y a des gens que ça va faire hurler, mais de 12 à 16 caractères. Malheureusement, on en est là aujourd'hui
bien
pour
sûr.
Avoir quelque chose de robuste et de solide. Il faut que ce soit un mélange de lettres en minuscules, de lettres en majuscules, de chiffres, et il faut rajouter des symboles. Ça,
alors,
c'est un
symboles,
mot de passe.
C'est les plus, les moins, les étoiles, les arrobases, etc.
Exactement,
etc.
Tout ce qu'on va trouver sur un clavier. Alors, il n'y a pas besoin d'en avoir des tonnes.
Pas des espaces, en revanche, ça marche
non,
pas.
Hein. Non, ça ne marche pas. Il n'y a pas besoin d'en avoir des tonnes, mais il faut qu'il y en ait quelques-uns présents dans le mot de passe. Ça peut être ces mots de passe, si vous avez du mal et que vous n'y arrivez pas, il y a des outils en ligne qui vous permettent de les générer,
d'accord.
qui sont gratuits. Il y a des suites de sécurité qui vont vous gérer la gestion de vos comptes et de vos mots de passe, propose d'accord. de vous générer des mots de passe automatiquement si vous n'y arrivez pas. Mais généralement, on se retrouve dans le même problème que les box. On retrouve des suites de caractères qui sont très difficiles à communiquer.
Après, on peut aussi créer un mot de passe mémotechnique.
Qui est une phrase.
Voilà, tiens, voilà, une phrase.
Une phrase,
en rajoutant
plusieurs mots les uns après les autres.
Bien sûr.
On se retrouve sur 16 caractères, on mélange bien majuscule, minuscule, des chiffres, des symboles.
Et puis on est bon.
Et on est bon.
Voilà. Ça, c'est pour le mot de passe important. Si vous avez envie de changer celui qui a été choisi par défaut
Tout à fait.
Par votre opérateur. Donc, le mot de passe, ça c'est OK. Peut-être un mot sur les normes de sécurité Wi-Fi aussi, parce qu'elles elles ont énormément évolué. Hein. À chaque fois, on se rend compte que la sécurité du Wi-Fi est de plus en plus robuste. C'est une problématique qui a beaucoup évolué, je crois, depuis 1997, en fait.
C'est ça.
On en parlait il y a quelques semaines.
En fait, la sécurité du Wi-Fi a un petit peu suivi l'évolution des normes. C'est-à-dire, à chaque changement majeur de normes Wi-Fi, on avait une nouvelle variante de sécurité. Et pourquoi ? Parce qu'on essaie toujours de renforcer la sécurité des produits Wi-Fi. Tu sais, c'est un petit peu le jeu du chat et la souris où on met en place un protocole de sécurité, il y a des gens qui arrivent à le craquer, donc on en met en place un autre et on continue. Donc là, on est arrivé avec les années à avoir 4 protocoles de sécurité majeurs. On est parti du web et aujourd'hui, on a du WPA et puis on a eu du 1, du 2 et du 3.
Wow.
Et donc, c'est important de comprendre ce concept parce que c'est ce que vous allez retrouver dans votre box. C'est les noms que vous allez retrouver dans votre box et les noms que vous allez retrouver dans votre produit. On va vous laisser le choix entre WPA 1, 2, 3. On va même mettre derrière ça des noms assez techniques qui correspondent à la génération des clés qui vont elles-mêmes assurer la sécurité. Finalement, la sécurité en Wi-Fi, c'est l'association de 3 choses. C'est une norme. Ensuite, c'est une technique d'échange de clés et c'est la génération d'une clé. Donc vous allez rentrer votre mot de passe. Tout ça, vous n'allez pas le voir, mais derrière va se passer tous ces échanges
tout un truc et
toute cette communication.
Est-ce qu'un réseau Wi-Fi est piratable, Lionel ?
Bah bien sûr, aujourd'hui, ça serait faux de dire que c'est absolument pas piratable. Tout est, piratable, entre guillemets. Par contre, il faut s'assurer qu'on a pris les bonnes dispositions et qu'on a mis les bonnes solutions en place.
Oui, et qu'on ait un réseau assez robuste pour qu'il puisse tenir des attaques, même si voilà, quelqu'un, enfin un vrai hacker, oui, un vrai pirate veut votre réseau Wi-Fi, il va le trouver, il va y arriver. Mais disons, idéalement, il faut lui compliquer un peu la tâche, quoi.
Exactement. Alors, je prendrai une image qui est un peu celle d'un cambriolage. Quand un cambrioleur arrive dans un hall où tu vas trouver 6 appartements, par définition, le cambrioleur va aller où ? Là où la serrure n'a pas été changée, et il n'y a pas eu de renforcement de sécurité qui a été effectué. Pourquoi ? Parce que c'est rapide et que c'est simple. Bah, la logique va rester un petit peu la même au niveau du Wi-Fi. Donc, il faut bien s'assurer qu'on a ses bases. Donc, un point d'accès qui a été changé, qui est identifiable, que vous pouvez identifier facilement. Un mot de passe qui a été changé. Et surtout, un autre paramètre dont on n'a pas parlé, changer les mots de passe par défaut de vos produits réseau.
Ça aussi, c'est important.
C'est aussi important que le...
Mais après, des vieux produits ne sont pas compatibles, par exemple, avec les dernières normes. C'est ça le souci.
Alors, c'est pour ça qu'on a ce mélange au niveau du Wi-Fi de plusieurs générations, ce qui complique un peu la tâche pour les clients, pour les consommateurs, en fait, parce qu'on a 3-4 générations qui se chevauchent. Et c'est une obligation, puisqu'on a des anciens produits qui tournent toujours sur ces anciens protocoles, et on a les plus récents qui tournent sur le WAPA3.
D'accord.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est on change le mot de passe de l'accès à sa box. On change le mot de passe d'un NAS, d'un switch, de tout produit qu'on met. On ne laisse pas le password par défaut, pitié, parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut sur la sécurité du Wi-Fi. Si vous laissez votre mot de passe password par défaut sur votre box, bah vous n'avez rien fait.
Ouais, c'est clair. Un mot quand même aussi sur le WPS, qui est bien pratique, avec ce petit bouton là qu'on retrouve, oui, tu sais, pour synchroniser.
Alors ça, c'est le WPS.
Ouais, c'est pas mal,
le WPS,
ça.
Donc ça a été lancé en 2006, en fait, et ça permettait de simplifier l'association, en fait, d'un périphérique avec
alors
une borne Wi-Fi.
Le QR code n'existait pas à l'époque, hein, donc c'est vrai que c'était pratique. Ça marche encore, ça, le
alors,
WPS?
Ça fonctionne toujours, on trouve les boutons. Alors, par contre, je ne vais pas le recommander parce que effectivement, ça, l'appui sur ce bouton déclenche une séquence qui, depuis, a été hackée. Donc on récupère le pin code au passage, et donc comme on a le pin code, on peut connecter n'importe quel type de produit, et je dirais qu'aujourd'hui on n'en a plus besoin. La génération d'un QR code avec les mobiles et le fait qu'on peut les utiliser, ça reste beaucoup plus sécurisé que l'utilisation du WPS, mais qui existe et qu'on trouve toujours.
La dernière norme, c'est la WPA3.
3, tout à fait.
C'est ça. Ça veut dire que j'ai un PC, j'ai une box récente, il faut que je passe en WPA3. C'est le système de sécurité qu'on nous propose par défaut ou pas ?
Alors non, parce que en fait...
Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt le WPS qu'on nous propose ou
alors
le
WPA2. Alors c'est le WPS qui te permet d'appuyer,
ouais,
et aussi souvent le WPA2.
C'est bizarre, ça.
Alors pourquoi ils font ça ? Parce que la problématique de tout ça, quand on change de protocole de sécurité, tu n'as pas forcément une compatibilité descendante. Parce que ce qu'on va demander au produit est très lourd en termes de génération de clés. Et il y a besoin d'une compatibilité réellement physique.
Oui, c'est-à-dire que là, il faut quand même un processeur derrière qui mouline, etc.
Tout à fait. Et donc, du coup, tous les produits qui sont sortis en 2018, la Wi-Fi Alliance a commencé à en certifier en 2020. C'est pas si vieux que ça.
Non, le rendent
obligatoire.
Ah oui.
Donc, quand dans un réseau, on va se retrouver avec une trentaine de produits, forcément... Tous ces produits n'auront pas la capacité de pouvoir générer des clés WPA3. Donc du coup, on va se trouver avec un réseau à la maison qui va être un petit peu un mélange et de produits, mais aussi de protocoles de protocoles
de sécurité. Ce qui est top déjà, c'est qu'on peut avoir certains produits ultra sécurisés et d'autres un peu moins.
Exactement. Alors c'est souvent le nerf du réseau qui est ultra sécurisé. Hein, tout ce qui est PC, tout ce qui est mobile, tout ça évolue très bien et très rapidement. Par contre, là où ça va être un petit peu plus embêtant, c'est dans tous les IoT.
Oui, donc tout ce qui est l'Internet of Things, c'est-à-dire les objets connectés, les caméras,
l'électroménager qui aussi est connecté,
les capteurs connectés.
Forcément, ces produits-là n'utilisent pas les dernières générations de produits et les dernières technologies. C'est souvent du 2.4 pour des raisons de portée.
Bien sûr.
Et donc, du coup, on se retrouve avec des technos de sécurité qui sont un petit peu plus anciennes. Donc, on a besoin d'avoir des produits qui sont capables aujourd'hui d'agréger plusieurs protocoles de sécurité en simultané. C'est ce qu'on appelle le mode mixte.
C'est ça. Est-ce que le fait de sécuriser son réseau en l'encryptant, ça nous fait perdre du débit ?
Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, les processeurs qu'on a dans les produits sont largement au-delà de tout ça.
Alors, Donc, en fait, ça sécurise l'autoroute.
C'est ça.
Mais l'autoroute est toujours aussi grosse.
Non, elle est toujours aussi grosse, elle est toujours aussi rapide. Et c'est intégré dans les chipsets.
D'accord. On a parlé donc de ce WPA2, de ce WPA, etc. etc. Qu'est-ce qu'on peut évoquer maintenant ? Peut-être le réseau invité, non ?
Alors,
qu'est-ce
que tu en penses, le réseau invité, c'est...
Ça, c'est important. Parce qu'on le voit aujourd'hui, on a notre propre réseau, et puis il y a la famille, les amis qui viennent. Et tu nous déconseilles, en fait, d'avoir qu'un seul unique réseau pour tout le monde ?
Absolument. Je vais même aller plus loin que ça. Je vais déconseiller l'utilisation d'un produit Wi-Fi qui ne comprend pas cette fonctionnalité. Il faut qu'aujourd'hui, votre produit, que ce soit ou la box, ou un système Wi-Fi, ou un routeur que vous avez installé derrière, il faut absolument que ce réseau invité soit présent et qu'on puisse l'activer. Donc, ça veut dire qu'on va se retrouver avec deux réseaux Wi-Fi. On a ce que j'appelle le principal, celui qu'on utilise au niveau familial, et on a le réseau invité de l'autre côté, qui va être un réseau physiquement séparé de votre réseau principal, dans lequel vous allez donner un accès Internet uniquement, et non pas un accès à votre réseau, et non pas un accès à vos périphériques, et encore moins à vos données. Ça D'accord. permet de séparer les deux.
C'est-à-dire que, par exemple, avec ce réseau invité, je pourrais aller sur Internet,
surfer. Tu peux faire ton speed test.
Je peux faire mon speed test, mais en revanche, je ne pourrais pas commander ton Sonos, ou je ne pourrais pas commander ta caméra.
Tu ne pourras pas commander une télévision. Tu ne pourras pas te connecter sur un NAS.
Ouais, mais ce n'est pas super pratique.
Alors, c'est vrai que ce n'est pas super pratique. Si on veut pousser à aller utiliser des périphériques, alors on a certains produits qui permettent d'utiliser un réseau invité et donner en plus, notamment dans la gamme Orbi, un accès à certaines plateformes. Donc, on n'est toujours pas sur le cœur du réseau, mais on peut quand même essayer d'aller toucher la télé.
Mais ça sert à quoi, en fait, ce réseau invité, finalement ? Parce qu'on se sert de notre Internet de la même manière, donc...
Non, ça sert à ne pas communiquer, encore une fois, le nom de ton point d'accès et son mot de passe.
D'accord.
Parce qu'une fois que la personne elle est sortie de chez toi, en fait, elle peut avoir accès à l'intégralité de tes données.
D'accord.
Donc, c'est comme si tu mettais à disposition l'ensemble de tes données qu'il y a sur ton réseau, tes données personnelles, tes comptes, etc. Là, tu donnes une porte ouverte.
Et ça marche aussi avec le QR code, le réseau invité,
le
ou pas ?
Le réseau invité fonctionne aussi avec le QR code. Le réseau invité est capable de se connecter avec des protocoles de sécurité mixtes. S'il y a des gens qui arrivent chez toi qui ont des périphériques anciens, ça fonctionnera.
Ça fonctionne aussi.
Ils seront sécurisés, ils vont pouvoir utiliser Internet et sans aucun problème. Et n'oublions pas que quand on scanne un QR code, on donne le nom du point d'accès et la clé de sécurité.
Et oui, c'est ça.
Donc, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut bien séparer. Et donc, au-delà d'un réseau invité, je vais aller encore un autre step au-dessus. On va parler des IoT maintenant. Parce que les IoT, ils ont l'avantage...
Donc les IoT, c'est les objets connectés, on va dire, de la maison.
Les objets connectés, qui ne sont pas des PC, qui ne sont pas des mobiles. Mm-hmm. C'est vraiment le reste des périphériques.
Bien sûr, bien sûr. Si on a des caméras, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure.
Exactement.
Les enceintes connectées.
Tous ces produits-là qui ont besoin d'une connexion Internet, qui sont sans fil par défaut, vont avoir deux problèmes, les IoT. Un, ils vont te ralentir ton réseau. C'est-à-dire que, comme c'est des technos qui sont anciennes, le fait de les mettre sur ton réseau, ils vont baisser la bande passante générale. Le deuxième point, c'est qu'ils vont réduire ton niveau de sécurité. Pour pouvoir les connecter dans ta maison, effectivement, tu ne pourras pas utiliser WPA3 avec ces produits-là. Il va falloir descendre le niveau de sécurité de manière à pouvoir accepter tout le monde. Donc, c'est à la fois une faille de sécurité. Ils sont une faille de sécurité en eux-mêmes et aussi, on réduit la sécurité globale de ton réseau.
Mais si j'achète des objets connectés récents, peut pas imaginer qu'ils bénéficient des dernières technologies de sécurité ?
Normalement, oui. Mais j'ai envie de te dire, au minimum du WPA2, voire du WPA3. Maintenant, l'obligation de certification date de 2020.
Et ça, c'est écrit ? Une caméra, si j'achète des...
Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu vas arriver à voir sur une fiche
D'accord.
produit de manière extrêmement claire. On va voir si c'est du Wi-Fi,
pourtant,
on va peut-être
important.
Voir la main. Je pense que c'est quelque chose qui a tendance à se généraliser de plus en plus. Mais je dirais que la Wi-Fi Alliance n'a pas encore statué fort de la même manière qu'elle a fait sur le Wi-Fi. Tu sais, en donnant le 1, le 2, le 3, le 5, le 6. Voilà, ils n'ont pas encore été poussés sur la partie sécurité. Mais donc, le mieux, c'est d'avoir aujourd'hui des systèmes Wi-Fi qui vont être aussi capables de te sortir ces produits IoT de ton réseau. Donc là, on va créer un troisième réseau Wi-Fi qui va se charger uniquement de connecter tous ces produits-là avec un protocole de sécurité un petit peu plus bas, avec une
vitesse complètement étanche du reste du réseau.
Et qui sera complètement étanche du reste du réseau.
Ah ouais.
On a,
mais c'est une usine à gaz à configurer ça. Il faut sortir de la Wi-Fi Alliance où s'appelait Lionel Paris.
Tu finis par avoir trois réseaux. Tu as ton principal, l'invité qui est la base, et ensuite tu as les IoT. Et donc là, tu as donc trois réseaux à disposition.
D'accord.
Qui te permettent de connecter tout. Alors, rares sont les produits qui proposent aussi cette connectivité on-top d'IoT. On a dans les Orbis la gamme 960 qui sait faire ça, mais c'est quelque chose qui est vraiment nouveau, qui vient d'arriver vraiment cette année.
Et là, tu peux connecter à la fois du 2Go 4 ou du 5Go.
Ou du 2.4 ou du 5 sans aucun problème, sans aucun réseau problème. IoT,
d'accord.
C'est pareil.
Tiens, puisqu'on parle de sécurité, autant en y rester encore pendant quelques minutes avec une tendance assez intéressante de la part de chez certains constructeurs de routeurs qui intègrent dans le dur, en fait, dans leurs appareils, des suites de sécurité.
Tout à fait. Et donc ça, c'est presque le dernier step. C'est-à-dire qu'on a parlé de toutes les bonnes pratiques précédentes qui sont vraiment très locales et sur les produits qu'on va utiliser. Là, on parle de l'implémentation d'une solution de sécurité dans un système Wi-Fi ou dans un routeur. Et là, c'est une solution qui est vraiment complète. Alors, on va trouver des constructeurs comme Netgear qui ont une solution qui s'appelle Armor qui est fabriquée derrière par Bitdefender. On a aussi Asus qui fait ça avec les solutions de chez Trend Micro. Donc, l'idée de tout ça, c'est d'offrir une réelle protection à 360. On sort de la logique où on devait installer des clients sur l'intégralité de tes périphériques à la maison, des antivirus ou des suites de sécurité. Tout simplement parce que, comme on vient de le citer, tous les objets IoT, tout l'électroménager, je ne vais pas pouvoir installer de suite de sécurité. Ça ne tourne pas sous Android, tourne pas sous Windows.
Ouais.
Donc comment on sécurise ces produits? Comment on s'assure que finalement, eux-mêmes ne vont pas devenir une brèche de sécurité? Et donc ces suites embarquées sont en fait résidentes dans la base du système Wi-Fi. Elles sont intégrées à l'intérieur. On va les contrôler avec l'application qu'on utilise pour son système Wi-Fi et elles vont veiller en permanence à connecter et à sécuriser l'intégralité des périphériques à l'intérieur du domicile.
D'accord. Donc là, pour que je comprenne bien, ça nous évite quoi en fait? Ça nous évite de changer les mots de passe? Ça nous évite quoi?
Bon, en fait, ça te permet d'ajouter une couche de sécurité à des objets qui n'en ont pas.
D'accord.
Une télé, tous les objets, l'électroménager et les IoT, et qui en ont besoin, parce que ce sont des failles de sécurité aujourd'hui. C'est les produits qu'on utilise parce qu'ils sont faciles à hacker, sont faciles à attaquer pour rentrer et pénétrer dans ton domicile et avoir accès à tes données. Donc là, on va pouvoir les sécuriser. Ça évite d'avoir à multiplier l'achat de tes licences sur l'intégralité de tes produits.
C'est-à-dire que j'ai pas le... Par exemple, je me connecte sur un appareil comme ça, un routeur avec une suite de logiciels de sécurité, je ne suis plus obligé d'avoir un antivirus sur mon PC?
Non, pas à l'intérieur du domicile. On va pouvoir garder cette suite de sécurité. On y aura
accès. C'est-à-dire que le gendarme, il n'est pas dans mon PC, il va être au-dessus, être sur la connexion en fait, de la maison.
Tout à fait. D'accord. Il est en amont. Et finalement, c'est mieux parce que j'ai envie de te dire que quand la menace est arrivée sur ta machine,
ouais, c'est un peu trop tard.
C'est déjà un peu trop tard. Il faut sécuriser en amont du réseau.
Mais est-ce que ça ralentit pas le réseau, tout ça? Parce qu'on peut dire qu'il y a des gendarmes qui sont là, puis non, ça tu passes pas, ça tu passes, etc.
Alors,
ça ralentit pas un peu la latence? Et par exemple, je suis gamer. Est-ce que ça va pas avoir un impact sur mes performances?
Non, parce qu'aujourd'hui, on a des processeurs tellement puissants dans ces machines. Alors, je parle des routeurs haut de gamme, je parle d'un système Wi-Fi haut de gamme, où là, maintenant, on a des quad-core, on a 1 giga de RAM dans ces produits-là. C'est des mini-PC. Hein,
oui, c'est les gros smartphones, en fait.
Les systèmes Wi-Fi, il faut se rendre compte qu'ils ont une consommation CPU qui est assez importante. Ils savent drainer et gérer tout ce trafic en simultané, le sécuriser, l'aiguiller. Et le point qui est très important, au-dessus de tout ce qu'ils vont faire, de l'interface, etc., ils vont te faire des recommandations. Tous les points qu'on vient d'évoquer ensemble, qui est, attention, changez votre mot de passe, attention, là vous m'avez mis un mot de passe qui est trop faible, ils vont te pousser en permanence, via l'application, des recommandations de sécurité.
Tout le monde fait ça? Alors, il y a Netgear que tu connais bien, mais il y a d'autres constructeurs, d'autres routeurs qui proposent ce type de suite logicielle.
Là, c'est très extensif, c'est très complet. Il n'y en a pas énormément. J'en ai vraiment trouvé deux sur le marché. Et il y a Netgear d'un côté avec la solution Armor, il y a Asus de l'autre côté avec la solution de chez Trend. Mais je dirais que la solution qui a vraiment plein de plus est cette partie recommandation que je n'ai pas trouvée ailleurs, qui te dit quoi faire en fait. Il te dit attention, corrigez ci, attention, faites ça, allez là, changez ça. Ça, je ne l'ai pas trouvé.
D'accord.
C'est vraiment le produit le plus puissant que j'ai trouvé en termes d'intégration aujourd'hui.
Alors juste une petite précision, tu as un rapport avec, pour être totalement transparent, hein, tu as un rapport avec Netgear, donc tu recommandes ces produits, mais tu y travailles, tu y collabores d'une manière générale. Donc voilà, autant être clair, mais si ce n'était pas le cas, tu ne le dirais pas. Hein. On se connaît assez, Lionel, pour que tu sois totalement objectif dans tes propos. Et puis, si vous regardez un petit peu sur Internet, vous vous rendrez compte que bah, voilà, Netgear fait partie des constructeurs de routeurs les plus performants au monde. Problème de ça, de cette suite logicielle, c'est que c'est payant. Tous les mois, il faut rajouter un ticket, quoi.
C'est ça, donc tu vas avoir un système d'abonnement qui ressemble un petit peu à ce que tu aurais fait dans l'ancien monde en achetant des licences sur un nombre donné de machines, mais dans ce contexte-là, tu n'as pas accès aux IoT, tu n'as pas accès aux produits qui n'utilisent pas un OS traditionnel.
D'accord, donc ça coûte combien à peu près, tu as une idée ou pas ?
Oui, qui te coûte 99 euros par an, mais sur un nombre de périphériques. Illimité,
puisqu'en fait la connexion, en fait la protection, elle est tout en haut de la pyramide. Donc
il n'y a plus de notion de j'ai besoin de couvrir 10, 15, 20, 30 machines, on s'en moque, c'est intégré dans le produit.
Intéressant aussi le contrôle parental, qui est de la même manière, qui peut être géré, non pas sur les smartphones, non pas sur les ordi des enfants, des tablettes, mais un cran plus haut, en fait.
On va décentraliser aussi de la même manière. On va le mettre à l'origine et sur le point d'accès. Et là, de la même manière, on va aussi trouver une application qui va te permettre, en tant que parent, de définir les règles que tu vas pouvoir implémenter sur ton réseau Wi-Fi.
Donc, couper le Wi-Fi à certaines heures, couper l'accès à certains sites,
tout à fait,
etc.
On va retrouver le panel complet de solutions de contrôle parental qui vont s'accompagner avec tout ça.
Et ça, c'est sur un réseau particulier qui est créé. Un autre réseau Wi-Fi ou pas ?
Non, on va reprendre, et c'est là où c'est très fort, c'est-à-dire que ça va reprendre la stratégie qu'on vient d'implémenter plus tôt sur tes réseaux. Ton réseau principal, ton réseau invité et ton réseau IoT. Tu as vraiment une convergence totale de la partie structurelle Wi-Fi et de la partie application de l'autre côté.
On ne se rend pas compte, du Wi-Fi, parce que c'est, on le voit pas, c'est pas comme un câble, c'est tout autour de nous. Et malgré tout, comme tu le disais, ben voilà, le Wi-Fi traverse les murs et sort de la maison. Partir de là, alors il faut pas céder à la psychose, évidemment. Il faut pas, il y a pas des pirates à tous les coins de rue.
Non.
Mais disons qu'il faut un minimum de protection.
C'est ça.
Parce que il y a plein de choses. Vous avez plein de choses sur vos PC qui sont perso. Et je parle même pas des photos. C'est toujours important quand même, malgré tout, de sécuriser un minimum.
Tout à fait.
Merci Lionel.
Eh bien écoute, merci François.
Super intéressant. On a appris plein de choses. J'espère que vous aussi, vous avez appris plein de choses. Lionel Paris, donc, on retrouve très vite.
Merci.
Ce De Quoi Je Me Mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous tous et à vous tous. On sera là, évidemment, la semaine prochaine. Tiens, un petit mot sur les Labo Weeks qui se déroulent actuellement en collaboration avec la FNAC sur la chaîne Tech & Co. On vous propose tout au long de ces semaines de choisir vos meilleurs produits high-tech dans tous les domaines. Objets connectés, tiens, justement, Lionel, on en parle dans la Labo Week, mais aussi télé, audio, PC, j'en passe et des meilleurs. Donc, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Tech & Co, sur l'univers Tech & Co pour avoir un maximum de conseils. Merci de nous suivre, bon week-end et à la semaine prochaine.
De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et Tech & Co.